France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1980, dans le quatrième épisode de la série suscité par la grande rétrospective Rauschenberg qui se tenait à Berlin, Jean Dève poursuivait son exploration croisée de l'œuvre du pionnier du pop art et de la vie artistique et intellectuelle berlinoise à l'ouest du mur. Un quatrième épisode qui, en prolongeant à travers la rencontre de Rauschenberg et de Berlin l'examen de la relation Amérique-Europe, faisait émerger une autre figure importante de la création artistique de l'après-Deuxième Guerre mondiale, Joseph Beuys. Alors qu'était projeté à Berlin un documentaire consacré à l'artiste allemand, c'était l'occasion de comparer les démarches de Rauschenberg et de Beuys en s'intéressant en particulier aux matériaux et techniques auxquels ils eurent respectivement recours au fil des années, extrêmement variés pour l'américain, très limités pour l'allemand. Discussion autour d'un verre à la cafétéria de la Kunsthalle de Berlin où se tenait l'exposition Rauschenberg. Discussion autour de beaucoup d'autres verres dans un café, un atelier ou lors d'un vernissage dans une galerie berlinoise. Ou encore traduction simultanée à voix basse dans une salle de cinéma et puis Berlin que l'on sillonne en taxi. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg-Berlin, quatrième des cinq nuits magnétiques, diffusée le 8 mai 1980 sur France Culture.
Bonsoir. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin. Quatrième partie.
Tu as vu le pneu là-bas ?
Oui.
Le pneu imprimé sur un rouleau. Là-bas. Viens voir le pneu.
Rauschenberg déclare « La peinture a ses rapports avec la vie et l'art. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être fabriqués. J'essaie d'agir dans la brèche qui les sépare. » Rauschenberg, très tôt, a revendiqué l'équivalence de tous les matériaux, voire leur simultanéité. Au début, il montre ses peintures de boue qui font scandale en 1953. Il peint ensuite une série de toiles entièrement blanches, ou noires, ou rouges, parce que, dit Rauschenberg, je voulais approcher du point limite où la toile commence à être tenue pour une peinture. Peu après, il utilise les matériaux les plus divers, aigle empaillé, parapluie, bouteille de Coca-Cola, tissu drapé, papier mural, chaise, corde, échelle. Enfin, les combined painting se transforment.
Wie fest auf vier Beinen steht.
Katja,
Yes, Kugis ohne Farbstoff. Yes, 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 yes. Ohne Farbstoff mit viel Frucht. Yes, 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 yes. Ja, Kenner kaufen. Kaum Katjes. Yes, yes,
yes. En 61, il présente à New York ses 34 illustrations pour l'Enfer de Dante, dans lesquelles, par sa technique des combine drawings, il a transposé les allégories du Quattrocento dans les mythologies quotidiennes de notre société, voitures de course, masques à gaz, grues, vedettes éphémères du cinéma, du sport ou de la politique, piégées par le report photomécanique des placards publicitaires et des photos à grosse trame de la presse, procédé qu'il ne tardera plus à appliquer à sa peinture.
C'est un œuf, non?
So nehmen Sie auf einseitige Art ab. Besser geht's mit Hip-Diät. Sie ist abwechslungsreich und schmeckt. 23 Fertiggerichte mit hochwertigem Fleisch, ausgesuchten Gemüsen und feinsten Beilagen. Schonend und pikant zubereitet. Alle unter 300 Kalorien. Hip-Diät.
C'est alors que Rauschenberg utilise l'impression sérigraphique pour fixer sur la toile des images issues de l'actualité américaine, comme le président Kennedy ou le parachutiste qui revient souvent au moment où la guerre du Vietnam se durcit, ainsi que la reproduction du tableau célèbre, la scène de Léonard de Vinci, la Vénus au miroir de Velázquez, la toilette de Vénus de Rubens. Mais les rehauts énergiques de couleurs sur ces images et le processus étrangement affirmé de leur apparition sur la toile donnent une impression d'épopée à la fois ordonnée et hagarde, à l'égal de la vie.
Rodeo. Rodeo, das sympathische Sportabzeichen von.
C'est que en utilisant le report photographique sur la toile sensibilisée, Rauschenberg capte d'une manière mécanique, moderne, la représentation de l'objet, du personnage ou de l'événement, tels qu'ils font partie du paysage naturel d'un habitant des villes modernes, par l'affiche, le journal, l'étiquette publicitaire.
Unter diesen Gipfeln verbirgt sich einer der höchsten Genüsse.
C'est très allemand quand même.
Pourquoi?
Toblerone. Une pyramide.
C'est pathétique.
Toblerone, die Schokoladenspezialität nach Original.
L'art, devenant l'expression de son présent, il est apparu nécessaire à Rauschenberg de lui annexer des techniques modernes, comme le report photographique, sur toile sensibilisée, puis les ressources de la chimie du plastique, le laser, la programmation électronique. Avec la série des Givres, 74-75, il explore les qualités de transparence des tissus, allant de la gaze au satin ou à la soie. Accrochés sans être tendus, ils portent les empreintes des photographies caractéristiques de son univers. sans impression d'image, les Jammers de 75 combinent la rigidité de perches appuyées au mur à divers effets de voilage. Les grands panneaux muraux de Rodeo Palace, 76, appartenant à la série Spread, comprennent trois portes ouvrables, séparées par des images transférées sur des séries qui se substituent au papier peint.
Allez, c'est notre objet que Rauschenberg s'appelle Jammers. Jammers, nous avons en allemand le nom Windjammer. C'est une parole nautique qui signifie des bateaux avec les
segles. Le professeur Rückaber.
La voile. Et il y a des pièces d'étoffe qui se combinent avec des couleurs. Et avec
des pièces, des perches.
C'est très Afrique, vous comprenez?
Oui.
Ce sont des pièces qui sont colorées dehors, c'est comme des Egyptian series. Et c'est absolument du nord d'Afrique, avec une bicyclette à trois roues. Et une pièce boîte et une drapeau rouge. Alors, c'est très Afrique.
Elle vient des États-Unis, cette pièce ?
Ça vient de des États-Unis, oui. Mais lui a fait ça quand il était en Égypte. Bon, oui. Alors, le dessin ?
Oui.
Ou les dents de trompe ?
On va peut-être descendre. Hein.
Vous me ruinez.
Tu peux. Oui, c'est vrai ?
Les Français, qui comprennent très bien la langue, c'est pas du français.
Non, mais
c'est plus facile pour moi de parler pas l'allemand.
C'est juste un reportage.
Oui, c'est un reportage.
Comment s'appelle cette toile?
Ah, Rodeo Palace. Rodeo is a rodeo. You have the same word in English?
Rodeo.
Rodeo. Rodeo Palace is a palace. Palace?
Palace.
For the rodeo. Ils sont des portes ouvertes. Et il y a dans les portes, il y a des pièces d'étoffe. Et il y a des transferts et des combinations avec des différents motifs sur la pièce. Voilà. Alors nous sommes devant le phénix. Phénix, c'est une grande boîte. Avec la lumière dessous, alors on ne sait pas comment il est sur la terre. Il est une lumière rouge et c'est 3 cm sur la terre. On ne peut pas voir comment il est
surélevé.
Et là-haut, il y a une roule,
un pneu,
un grand pneu qui est coloré. Ça s'appelle Phoenix. Avec les différentes...
Qui se reflètent.
Oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de pièces de journaux illustrés, etc., avec des motifs sportifs, etc.
Comment vous expliquez là, maintenant le travail de la lumière dans l'œuvre de Rauschenberg? C'est assez récent, non?
Oui, alors il y a des différentes pièces. On va à l'autre
c'est,
encore.
C'est là
oui,
qui est très étonnante.
Oui, oui, oui. Oui. Alors, à l'Egyptian Series, lui travaille avec la lumière aussi. Et celle-ci, c'est avec la lumière électrique. C'est une pièce qui est faite par boîte avec les spiegels, avec les miroirs, avec les reflets, avec des miroirs. Et on peut voir dans les miroirs les dessins et les combinations des illustrations, on peut voir dans les, à la réflexion. Et dessous ça, il y a une lumière bleue qui donne aussi
un climat.
Alors, il y a deux pièces que lui appelle mollusque. Alors, c'est le monarque mollusque. C'est une miroir. Et devant, il y a une... Comment s'appelle ça?
Parasol.
Un parasol qui est... À l'intérieur du parasol, il y a des transferts, etc. On peut voir dans le miroir l'intérieur du parasol. Au contraire, à l'autre mur, le parasol est de l'autre côté, dehors, avec des transferts, avec des différents motifs, et on peut voir à travers le tableau. Alors, ce sont les deux mollusques. Ce sont les récentes pièces.
Vous aimez ce travail récent de Rauschenberg, tout autant que les plus anciennes?
Alors, vous savez, la chose plus frappante, c'est que lui travaille toujours avec des énormes énergies. On pense qu'il y a toujours des nouvelles idées et des innovations énormes. Alors, il y a beaucoup d'artistes dans tout le monde qui sont des épigones de lui. Et maintenant, on peut voir le maître, n'est-ce pas? Alors, on peut des idées, on peut vivre encore beaucoup de temps pour beaucoup des artistes. Comme ça, je suis absolument sûr que lui est le maître classique.
Mais il est très loin maintenant de son travail des années 50.
Oui, oui, alors, c'est toujours en marche, n'est-ce pas? Lui est un peu comme Picasso qui change toujours. C'est peut-être une idée profonde. Et c'est alors il y a des choses qui reviennent dans tous les travaux. C'est the feeling for the color. Alors le sens pour la couleur, c'est le sens pour la combination, c'est le sens pour la composition et aussi la réalité que lui transporte avec ça. Dans une forme difficile, c'est pas facile, c'est une forme difficile de transformation, mais c'est toujours très près à la réalité et lui porte la réalité directement dans son œuvre.
Mais vous pouvez suivre son parcours ou parfois il vous déroute?
Alors quand on voit dans les expositions une certaine
série,
c'est un peu difficile. Pour moi, non, je pense, parce que je connais presque toute l'œuvre. Mais pour le peuple, c'est difficile pour comprendre.
Le public.
Pour le public, pour comprendre, c'est maintenant une certaine période dans laquelle il travaille.
Mais alors, quand vous avez, par exemple, découvert la série des cartons, ça vous a quand même surpris, non?
Oui. Alors, pour le public aussi, la chambre avec les cartons, c'est un peu choqué pour la première fois, mais on comprend ça. Alors, pour moi, ce n'est pas un problème. Alors,
les voiles avec des perches, ça ne vous a pas surpris non plus?
Non.
Alors, vous êtes un inconditionnel.
Qu'est-ce que c'est ça?
Inconditionnel.
Habitué.
Vous êtes un admirateur absolu.
Ah non. Alors je suis.
Vous êtes critique?
Je suis critique aussi. Je suis comme ça. Je veux voir les choses, les objets.
Alors qu'est-ce qui ne va pas chez Rauschenberg?
Chez Rauschenberg, qui ne va pas? Ah, c'est difficile. Vous savez, lui, a, ici, dans la conférence de la presse, lui a conté que lui travaille avec ses assistants ensemble. Et je comprends ça absolument bien que lui a un assistant qui a la possibilité de travailler dans différentes techniques, lui peut soi-même donner ses idées, travailler ensemble comme ça avec lui pour faire de nouvelles choses. Alors maintenant, lui a un nouveau assistant en Amérique. Alors on veut voir que ça vienne une absolument nouvelle chose. Je suis presque sûr.
C'est le choix de l'assistant qui est malgré tout important.
C'est aussi important, oui. Et les choses que que peut faire l'assistant aussi. C'est normal.
Et combien d'assistants a-t-il à Captiva?
Ah, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de personnes.
Vous l'avez vu travailler là-bas en Floride?
Non, pas encore. Non, je n'étais pas là. Mais quand lui était là, alors aussi, il y a beaucoup de personnes aussi. Bon, alors on ne raconte pas ça.
On va parler du carton?
Oui, on peut parler du carton. C'est difficile.
Qu'est-ce que vous aimez en dehors de Rauschenberg? Pour vous, c'est le plus grand?
Alors, il y a une discussion. En Allemagne, il y a un critique d'art que je n'aime pas si beaucoup, mais lui fait des listes, etc., qui sont les plus importants artistes du monde. Il y a une statistique, quelque chose comme ça, avec les prix, etc. Et Rauschenberg était par 10 années le plus grand, avec le plus grand succès. Et maintenant, c'est un peu une bataille avec Beuys. Mais Rauschenberg a dit ici que lui aime très bien Beuys. Je ne suis pas contre Beuys, etc. Je trouve ça très, très intéressant. Et pour moi, Rauschenberg, c'est une chose différente de Beuys.
Où est la différence?
La différence. Alors, Beuys est très, très allemand. Lui est anthroposophe. Lui est très philosophique. Lui a une certaine. Lui pense à la démocratie directe, quelque chose comme ça. C'est une haltung, sa philosophie. Et les œuvres, je trouve très sérieux. C'est aussi avec un sens pour la composition, pour les couleurs, mais totalement différent. C'est ici, c'est comme l'été, n'est-ce pas? Et bon, c'est comme l'hiver presque. Alors, il y a des différentes grandes artistes vivantes. Alors, un de ça est Beuys et l'autre est Rauschenberg.
Vous avez déjà fait une rétrospective
Beuys? Non. Il y a à Berlin souvent des expositions de Beuys. Il y a en Amérique maintenant une très grande exposition. Et la Galerie Nationale ici a fait maintenant une exposition de drawings, des dessins. Alors c'est Castelli Turtle Rough. We have to look at the exact title. Well, it's Castelli Small Turtle Bowl from 1971. Bon, alors c'est une grande pièce. Comment on dit sur ce matériau? Ce matériau?
Carton.
C'est carton. Un très grand carton. Alors je crois que ça vient d'un très grand carton dans lequel on a transporté une très grande toile, quelque chose comme ça. Lui a fait ça ouverte sur la mur. Il y a des coupes, hein? On dit coupes. Mais il est c'est une forme qui est. On pense premièrement, c'est par location comme ça. Mais quand on veut voir ça exactement, il est très fine comme combinaison de couleurs, de compositions, etc.
Égocentrique.
Oui, c'est très. Rauschenberg est très égocentrique. Il se croit le plus grand du monde. Parce qu'ici, il fait un. il roule avec la voiture sur un morceau de papier et dit voilà, c'est l'art. Et c'est vraiment...
Mais le panneau qui est derrière vous, là, tout blanc...
Ah, ça, je n'avais même pas encore vu. Je croyais que c'était un morceau de mur.
C'est un morceau de mur sur un mur.
Rien du tout. En plus, ce n'est pas très nouveau. Ça, on l'a déjà vu. Non,
c'était beaucoup. En 1950, je crois.
Oui, mais même là, on a fait déjà des choses comme ça.
C'est un bon point de départ quand même, non? Vous ne croyez
un
pas?
Un panneau blanc, oui, bien sûr. Mais si, il faut que ça reste là comme point de départ. Au moment que ça devient une chose finie, je ne l'accepte plus.
Mais ça n'a rien d'égocentrique, ça. Un panneau blanc.
Non, mais monsieur...
Christine Robert, Gerber. Oui. L'actualité dans un travail de peintre ne te gêne pas. La présence de l'actualité. Jens Jensen.
Si c'est présenté dans une façon tellement poétique, tellement abstrait, comme il le fait lui. Pas du tout, ça me gêne pas du tout. Parce que ça, c'est là, cette espèce d'art est tout à fait actuelle, toujours.
Parce que ce sont des jouets.
Des abstractions, des jouets. Même si on voit des journaux dedans, ce sont jamais les propres journaux. On sait que. Le sens qu'il est écrit dedans, c'est pas ça qui est important, c'est le message de tout ensemble. Il veut pas faire le grand maître, il veut pas faire le juge, il veut pas nous enseigner. Il veut faire son propre art à lui et... C'est ça.
Mais est-ce qu'on peut aimer...
Très concentré sur lui-même, sur sa vie personnelle de chaque jour.
Mais est-ce qu'on peut aimer à la fois Jasper Johns et Rauschenberg?
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est comme la musique. J'ai toujours eu peur des gens qui disent « j'aime la musique », tu les demandes, mais qu'est-ce que tu aimes? Que les opéras. Alors, en ce cas-là, je dis « tu n'aimes pas la musique ». Si tu aimes la musique...
Parce que vous aimez beaucoup Jasper Johns.
Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, pas seulement lui, aussi. Magrotko, j'aime beaucoup. Jim Dine aussi, oui. Bon, maintenant, ça suffit avec les autres peintres. Hein. Autrement, tu me mets dans un coin où je ne me sens pas très bien dedans.
Que la table ronde est un peu grande là, on peut pas s'entendre tous.
On peut changer quand même.
On peut changer.
Non, mais ce que je voulais dire, pour moi, la variété, la pluralité dans l'art est une des choses les plus positives, les plus importantes qui existent. Non, à moi, toujours choque cette arrogance de vouloir de quelqu'un qui veut changer la vie, le monde avec un tableau qu'il peint dans une forme soit réaliste, soit enseignant. Et combien de gens voient un tableau à la fin? Très. Il n'y a pas la même... si on pense aux Beatles, par exemple, ils ont une distribution... partout sur le monde, mais qui voit un tableau, ce sont des gens qui savent déjà que la vie c'est un enfer, il ne faut plus expliquer à eux, il faut plutôt sublimer leur vie.
Pour une toile, il faut un mur, or il n'y a pas de mur, les murs sont très rares.
Oui, pas à Berlin. Dans l'autre Europe.
On n'accroche pas de mur là.
Oui, on aime beaucoup les murs ici. On les adore. On les met partout. Maintenant, il faut couper le ciel avec des murs. Ça, c'était l'unique chose qui manque encore. On s'occupe du ciel avec des murs.
L'enfer, techniquement, comment est-il fait ?
Des frottages avec du térébenthine et tu mets un petit bout de papier ou un papier sur un journal. Tu mets du térébenthine en plus et tu frottes avec un stylo, une espèce de stylo. Et ça, tu peux faire aussi avec des tissus, avec beaucoup de choses qui absorbent la térébenthine. Et après, tu fais un film de tout ça et tu fais une sérigraphie ou n'importe quoi.
Alors, le crayon...
Le crayon, c'est ça, pas stylo. Je me suis trompé. Le crayon. Stylo, c'est quelque chose... c'est d'autres choses.
Alors, le...
Ah oui, c'est pour ça, oui.
Alors, Christine nous disait qu'à Berlin, il y avait énormément de bateaux à voile.
Ah oui, Christine aime beaucoup les bateaux à voile. Il y avait un Français ici qui a fait Daniel Burin, tu connais certainement, qui a fait une grande action sur les lacs ici avec des voiles, des bateaux à voile. Très belle action.
là, à l'Anhalter Bahnhof. Fameuse gare.
Pourquoi fameuse?
Parce qu'elle reste en ruine, elle n'a pas été reconstruite. C'est tout juste la façade qui reste. Si vous voulez, c'est le symbole que bon, la voie à l'est est interrompue, quoi. Il n'y a plus de train qui arrive. Enfin, elle reste, la façade reste simplement là, comme ça. Il n'y a plus aucune fonction.
Brigitta Restorff.
C'est sans appel.
Vous voyez, donc c'est toujours pas mal de trucs qui restent comme ça de la guerre. Hein. Ça pratiquement pas.
Assez à l'abandon. Hein.
Oui, un peu, oui. Beaucoup de terrain vague.
Et ça, qu'est-ce que c'est, cette façade là?
Ça, c'est la gare. Ah. C'est justement ça.
Ah, ben il ne reste qu'une façade.
Il ne reste que ça, oui. Il ne reste que ça.
C'est impressionnant.
Oui.
Et les traces de balles, non?
Oui.
Dans les briques.
Il reste porte aussi.
Une façade jaune, en briques jaunes.
Oui. Vous voyez que c'est tout à fait différent du quartier qu'on vient de voir au Grunewald. Hein, c'est deux mondes.
Je me suis senti anti-Grunewald.
Yeah, c'est ça. C'est l'anti-Grunewald. Oder weiter vorne, es ist ja egal, irgendwo in der Richtung. Bon, je vais vous montrer quand même un tout petit peu le mur quand même.
Pourquoi quand même?
Oui, parce que bon, il y a des endroits où on peut monter, parce qu'on a fait des genres de balustrades pour monter, pour regarder de l'autre côté. Où les huiles politiques, lorsqu'elles arrivent, on les fait monter là. Bon, il y a des balustrades, des marches en bois, vous montez, vous pouvez voir. L'ancienne bunker aussi, par exemple, l'autre Potsdamer Platz. Mais le mur donc est partout, alors on peut le voir. On peut aussi bien le voir d'ici, mais vous ne verrez pas beaucoup, enfin, vous verrez.
Il y a des sentinelles le long du
mur. Oui, il y a des genres de tours.
Mirador.
Oui, mirador, vous dites. Ah bon, oui. Des mines, enfin, tout ça, vous le savez. Enfin,
non.
C'est miné, c'est entièrement miné. C'est le No Man's Land derrière et c'est complètement miné. Il y a des fusils automatiques.
Mais le mur, où est-il? Ah, d'accord.
Vous voyez là? Ça, c'est Berlin-Est, là, de l'autre côté.
Là, je vois un mirador, là à droite.
Oui.
Comment s'appelle ce fleuve?
Ja, das ist doch die Spree hier, ne? Wo ist die Havel? Nein, das ist die Spree hier.
Das weiß ich jetzt nicht.
Das wird doch la Spree ici. Pas la Havel. Moi, je confonds tout. Je crois que c'est la Spree.
Hier ist ein Grab.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le mur était miné.
Ah non, mais toute la partie immédiatement après le mur est complètement minée. Complètement. Il y a des fusils automatiques qui se déclenchent automatiquement. Ah oui, absolument. Alors c'est marqué attention danger de vie puisque la voie d'eau appartient au secteur est. Alors on n'a pas intérêt de mettre les pieds dedans. Hein. Oui.
Et les sentinelles hein, dans les bateaux.
Oui.
Soll ich wieder den.
Fahren wir jetzt vielleicht einen anderen Weg zurück?
Ja, vielleicht durch typisch Kreuzberg.
Ja, gut, ok. Bon, retourne lentement, ça vous dit, par une autre voie? Voilà, un des quartiers turcs ici. Hein.
Ja, ich mach zum Marienplatz.
Wohin zum Marienplatz? Ah, das ist schön. Gut. Ja, das ist gut.
Ça, c'est encore des restes de la guerre. Hein.
Ça, je crois pas.
Les ruines, non?
Ça, je crois pas. Enfin, de toute façon, on l'a laissé depuis, quoi. Enfin, ça n'a pas été reconstruit, mais pourquoi il...
Et qui empile, là, les morceaux de bois?
Ben, ce sont des Turcs qui se servent pour se chauffer. là, et tout le monde se sert. Non, mais je crois que ça, on l'a fait sauter là pour on appelle ça, on assainit les quartiers. On essaie de on arrache, on détruit, on démolit, et après on reconstruit. Non, mais là, tout le monde se sert, quoi, pour le bois, parce qu'il y a beaucoup qui habitent avec des vieux poêles à faïence, comme chez moi, par exemple. J'ai des très vieux poêles à faïence, je me chauffe au bois et au charbon, quoi. C'est, voilà, ça marche comme ça. Parce que magie, j'habite dans un très, très vieux quartier, enfin, dans une très vieille maison. Qu'est-ce que c'est, hier?
C'est le Künstlerhaus Bethanien.
Ah, voilà, Künstlerhaus. C'est ça, c'est Bethanien. C'est... C'était un ancien hôpital. Et bon, ça a été repris par le Sénat. Il y a des artistes avec des ateliers qui vivent là-dedans. C'est des agences académiques.
Krankenhaus gewesen, da stand das leer.
C'était là un ancien hôpital.
Dann ist das von den Leuten, die hier verkehrt haben, besetzt worden.
Oui, ça a été occupé par des gens qui ont habité ici.
Und dann haben sie daraus im, ein Künstlerhaus gemacht.
Oui, ça a été refait aussi. Hein, tout ce qui était là, oui, on va refaire la même chose ici.
Und das ist hier...
Oui, ça, c'est, là on est vraiment au plus profond du Kreuzberg. Hein. Bon, alors ça, c'est un, comme il a
pas
dit.
Des enfants avec des drapeaux rouges.
Oui, c'est pas ce qu'ils font là. Genre publicité, je crois. C'était l'ancien hôpital, et puis bon, les habitants des environs l'ont occupé parce qu'ils voulaient qu'on fasse un hôpital, une clinique pour enfants. Mais le Sénat l'a repris et a refait donc ses ateliers pour des artistes qui viennent avec des échanges comme ça, académiques, enfin, avec le DAD, qui vivent là pour un an, qui ont la possibilité de travailler ici, quoi.
C'est la Adelbertstraße.
Oui, c'est tout à fait vieux, hein. C'est vraiment, c'est... on le laisse.
C'est le ghetto, le ghetto de Berlin, ça.
Le
ghetto de Berlin.
On pourrait dire, oui. Oui, oui. Was haben Sie gesagt?
Vielleicht kennen Sie das Buch, wie war das? Der Infos von Neunigstraße.
Ja, ja, von Aras Öhren, natürlich.
J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de graffitis sur les murs.
Oui, oui. Oui, enfin, il s'adresse contre les Berufsverbot, ça vous dit quelque chose, je crois, non? Parce que j'ai lu le terme dans Le Monde. C'est bon, parce que... certaines gens qui adhèrent à un parti de gauche ne peuvent pas devenir fonctionnaires, par exemple, pour devenir professeur. Il y a des problèmes. Alors, c'est l'interdiction, si vous voulez, d'exercer une profession pour raison politique. Ce sont des paroles féministes aussi. Voilà.
Il y a une grande pression politique alors, sur la vie.
Oui, assez. Oui, oui, oui. Là, on arrive au bunker. On le voit pratiquement pas parce qu'il est... enfin, on le voit, mais il est entièrement...
Ça vous fait rire?
Moi, ça me fait rire parce qu'on n'arrive pas à faire sauter cet engin. C'est pas possible. C'est... voilà, cette maison. Là, enfin, on le voit de plus près quand on passe devant, là.
Ah oui, je vois.
Il y a vraiment des sports.
C'est ça. L'ancien palais du sport a été là aussi.
Mais il est devant une HLM, non?
Oui, 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 on a construit un HLM autour.
C'était le bunker de qui?
Non, mais c'était un public, un bunker public, vous les voyez là?
Immense.
Hein? Oui, là derrière, là, ça, là. Pas arrivé à le faire sauter. Vous savez comment on a tout fait? Voilà, ça c'est le co. C'est le Conseil des Alliés, voilà. Thank you. J'ai remarqué ça cet après-midi quand, tu sais, on a fait un petit tour de ville. Mon Dieu, alors, je me suis sentie confrontée à une vue sur Berlin que moi je n'ai pas. Je me balade, bon, j'ai toujours des yeux un peu... Non, mais ça, je vois Berlin avec les yeux de quelqu'un qui y vit, enfin, pas d'un point de vue étranger, enfin. C'est-à-dire que je n'ai pas de distance face à cette ville. Il y a même des quartiers où je ne vais jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, ou bien je vais quelquefois à Wedding faire la tournée des bistrots ou à Kreuzberg pour faire bon, voilà, la tournée, quoi. Enfin, pour parler aux gens. Mais...
Et pour vous, votre tournée, qu'est-ce que c'est?
Moi, j'ai une distance immense. Je la déteste, cette ville.
Ah, tu n'aimes pas être à Berlin, toi?
Non.
Mais pourquoi tu y es? Pour des raisons professionnelles, surtout.
C'est ça, oui.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous faites à Berlin?
Ah, je suis assistant au séminaire de littérature comparée.
Non, mais où est-ce que tu aimerais vivre? Dans quelle ville?
À Paris, par exemple.
Ah, à Paris. Et tu ne vois
pas...
Dans
la Provence.
Dans la Provence.
Ouais.
Mais... Non, mais tout le monde déteste...
Berlin, ça s'appelle la Provence.
Non, mais Berlin, c'est pas la Provence. Mais non, mais enfin, quelle comparaison? Pourquoi? Parce que c'est boisé? Parce que c'est très vert? Parce que...
La Provence.
La Provence ou la Provence?
La Provence.
Ah non, alors la Provence et Berlin, ça me... Vraiment, c'est une comparaison un peu osée, je trouve. Pourquoi vous dites
qui n'est
ça
pas, qui n'est pas de moi, hein.
Non, mais du qui c'est?
Mais de...
De lui?
Non, non,
non, non, mais ça, c'était... Non, il a dit qu'il aimerait...
Je préférerais de vivre dans la Provence.
Soit à Paris ou en Provence.
Oui.
Et pour Jens?
Bon, pour moi, une raison, ou la raison la plus importante, c'est que Berlin... On peut l'aimer, on peut pas l'aimer, on peut dire c'est une belle ville, c'est une ville moche, mais c'est la ville des bâtards, des foutus, des... Oui, c'est vrai.
C'est un peintre qui
parle. Oui, je sais pas. On les sent pas tout dans les rues, dans les... Ah bon, dans les bistrots aussi. Mais ce sont des gens... qui on trouve pas autrement aussi facile qu'ici à Berlin, qui savent pas vraiment faire quoi avec la vie comme dans l'autre l'Allemagne, qui sont pas tellement intéressés de des fric, des...
Mais qui vit à Berlin, enfin, qui rencontrez-vous à Berlin?
Bon. Je vis une vie un peu infamée aussi parmi des artistes, parmi des gens que moi j'ai essayé comment on dit beschreiben,
décrire,
que j'ai essayé de décrire. Bon.
Qui rencontrez-vous à Berlin?
Finalement, je rencontre les mêmes gens que Jens. Et quand j'ai fait mes randonnées du bistrot, bon, évidemment, je rencontre des gens tout à fait différents. Enfin, à Kreuzberg, des ivrognes, quoi, beaucoup. Il y a des bistrots attitrés d'ivrognes où j'aime beaucoup aller, par exemple. Où je vais au Tiblefisch, où il y a un amalgame de gens, d'artistes parvenus, enfin, où c'est un peu le pêle-mêle, enfin, de tout ce qui arrive de New York, de Paris, de... Hein, on pourrait dire ça, Tiblefisch. Non, enfin, tu vas pas, toi. Il y a aussi des gens qui le boycottent. Enfin, c'est quand même presque une institution, enfin, du bistrot, comme un peu la palette à Paris, quoi, enfin, je crois. Non, mais... enfin, on rencontre des gens, quoi. Finalement, on reste un peu toujours dans les mêmes circuits, c'est normal. Enfin, je n'ai pas tellement envie de rencontrer des gens nouveaux pour le plaisir de la nouveauté, quoi. Enfin, c'est... Non, mais...
Et vous rencontrez des universitaires.
C'est ça.
Il faut dire que le programme culturel est très, très avancé ici, alors il y a toujours la possibilité de voir plus des expositions que dans le reste de l'Allemagne.
passant devant un cinéma en taxi, je perçois une affiche qui fait tilt. Joseph Beuys, deux points, Jeder ist ein Künstler. Joseph Beuys, chacun est un artiste. Décidément, les dieux ne laissent rien au hasard. Ils ont réuni dans la même ville, Berlin, les deux plus grands. Le documentaire passe chaque soir à 20h. C'est le plus vieux et le plus célèbre cinéma berlinois, me dit-on. Je m'y engouffre. Alors que Rauschenberg brasse tous les matériaux, Beuys n'en utilise principalement que deux, le feutre, la graisse. Dans l'obscurité, sur l'écran, le chaman parle.
Man könnte sagen, einfach oder absurd auch. Nicht? Dasselbe wiederholt sich nochmal in Ort oder Orde. Orde wird entweder benutzt in, zum Beispiel in der englischen Sprache als merkwürdig, aber auch in skandinavischen Sprachen auch als einöde. Das sind so zwei Begriffe, die sich gegenseitig verbinden und nochmal steigern.
On vient d'entendre Beuys, qu'est-ce qu'elle disait?
Il a justement expliqué l'assemblage des objets qu'il y avait. C'était des objets dont il avait besoin pour ses actions, tu vois. Il leur avait donné un nom spécial, enfin, genre de mélange germanique, tu peux dire absurde, seul, enfin tout ça.
Und Formprinzip zeigen konnte. Das Formprinzip tritt auf als Fettecke im Raumkontext. Das ist also die Endform von dem ganzen Umgehen mit diesem anfälligen Material, könnte man sagen. Was, wenn man es einfach herbeischafft oder unter Umständen auch noch in die verschiedensten Wärmebedingungen hineinstellt, zum Beispiel zerfällt, wegfließt, in alle Gegenden wegfließt, durch die Aktion, wird also transportiert vom unbestimmten Zustand in den bestimmten. Also da hat man in dem Feld eine ideale Möglichkeit, mit einem so anfälligen Material die Bestandteile der Plastik zu zeigen in der Aktion. Aber jetzt nicht Plastik als einen statischen, sondern Plastik als ein universales Element.
Fett und Wachs sind Stoffe, aus denen Energie entstehen kann.
Il dit que la graisse à l'état chauffé représente le chaos, les choses amorphes, et que dans l'état froid, elle est structurée, ordre, tu vois.
Filz auf dem nackten Körper erzeugt Gänsehaut.
Et que pour lui la graisse, c'est un réservoir d'énergie permanent, parce que ça c'est comparable à l'organisme humain. Parce que en prenant de la nourriture, enfin, ça devient une substance physique qui fournit l'énergie spirituelle qui est la base de tout travail humain. À l'état défini. Le choix de mes matériaux n'était pas d'abord une impulsion venue d'une représentation picturale, mais d'une idée que j'ai de la forme plastique. Il s'agit d'une analyse du terme plastique.
Bestimmt und Bewegung. Und da also etwas, sagen wir, stofflich Substanzielles genommen werden muss, haben wir etwas genommen, was keinerlei Äußerung hat zur Farbe hin oder zur Form hin.
La matière doit être quelque chose de tout à fait substantiel, donc j'ai choisi un matériel qui n'a aucune tendance vers une couleur quelconque.
par exemple le feutre. Pas du tout, mon intention de représenter, de faire quelque chose de triste, enfin parce que c'est gris, tout ça. Parce que si le feutre transporte la chaleur aussi.
Ein leitendes Material kennzeichnet das geistige Kräftespiel im privaten und öffentlichen Leben.
Le cuivre, qui est représentatif du jeu de force dans la vie privée et publique. Transporteur d'énergie aussi.
Ich meine damit eine geistige oder evolutionäre Wertung
in l'énergie, du terme
d'énergie nämlich den Evolutionsbeginn. Damit meldet Beuys seinen Anspruch auf den politischen Sektor an.
En sens aussi politique, enfin.
Malgré
qu'il soit refusé violemment par le public, il a un succès énorme chez des gens chez des collectionneurs d'art.
Berlin? You like?
Aye! I like Berlin. But Paris is better. I like more Paris.
Uhr. Hier ist der Sender Freies Berlin. Sie hören Nachrichten. Der amerikanische Präsident Carter hat bestätigt, dass ein von ihm angeordnetes Kommandounternehmen zur Befreiung der amerikanischen Geiseln in Teheran gescheitert ist. In einer Rundfunk- und Fernsehansprache, die auch von den deutschen Sendern übertragen wurde, erklärte Carter, er selbst habe den Abbruch des Unternehmens befohlen, nachdem technische Schwierigkeiten aufgetreten seien.
Vous êtes libraire à Berlin, vous tenez une librairie un peu spéciale. Parce que j'ai vu des éditions originales de Rilke, de Goethe, de Wagner.
Oui, mais c'est seulement une part de mais des livres que j'ai que je peux offrir dans ce magasin. J'ai ce magasin seulement 2 mois.
Vous venez de commencer, donc.
Oui.
Mais c'est une rue riche en librairies.
Oui, la région est.
Comment s'appelle la rue?
Knesebeckstraße. Knesebeckstraße.
Il y a toutes les librairies de Berlin dans cette rue?
Non.
Il y a beaucoup de.
Il y a beaucoup de bouquinistes et. C'est une occasion heureuse pour moi.
Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant cette librairie, avant d'ouvrir cette librairie?
Je suis historien du théâtre. J'ai travaillé 2 ans au musée du théâtre à Munich. Et ma docteur des lettres est sur un thème du théâtre.
Pourquoi vous êtes-vous installé à Berlin comme libraire?
Oui, je suis né à Berlin et j'aime ma cité et j'aime les livres. J'ai une grande collection des livres sur le théâtre. Et la collection a donné moi l'idée, oui, l'idée pour ouvrir une magasin de livres.
Qu'est-ce que vous avez comme livre que vous aimez particulièrement?
Les auteurs du 18e siècle. Goethe, Schiller et Voltaire.
Et parmi ceux du 20e siècle,
Gottfried Keller est un des plus modernes. Mark Twain et autres écrivains humoristiques.
J'ai vu que vous aviez des livres très peu chers, les Rilke. Dans cette collection Insel,
oui. Yeah, c'est la collection Insel, très peu cher, 2 marques et 3 marques. C'est le prix.
En caractère gothique, non, le Requiem de Rilke qui est imprimé en caractère gothique.
Oui, caractère gothique, oui, c'est là. Je ne sais pas les mots en français. Une frühe Ausgabe.
N'est pas d'édition originale de Kafka?
Oui, j'ai quelques éditions originales, mais pas ici, mais dans un catalogue qui vient en été. J'ai un téléphone. Excusez-moi.
Ach so, ja, ich hatte, musste gerade ein französisches Interview geben und war also etwas.
Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's dir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine. Oh.
La vie artistique à Berlin, est-ce que c'est très riche, est-ce que c'est foisonnant?
Il y a plein de brochures, ça vous enfermera, sur l'activité artistique à Berlin. Et qu'est-ce que je dirais encore? Il y a le Festspiele.
Oui, oui.
Et je suis toujours parti au moment qu'il se passe quelque chose, c'est parce que j'enseigne ici aux Beaux-Arts. Et du moment que j'ai
le
temps de libre, peinture. Oui. Mais alors, au moment que j'ai les vacances de l'académie, je suis dans le midi.
Dans un vernissage berlinois avec Martin Edelman.
Posez-moi une question.
Qu'est-ce que vous peignez?
C'est incroyable. Je peins ma peinture. Je suis venu ici après mai 68. J'ai dû quitter Paris parce qu'il n'y avait pas moyen d'existence. Et alors, j'avais vécu 20 ans à Paris. Je suis arrivé à Paris en 48. Au bout de 20 ans de ceinture, c'est Berlin qui m'a offert quelque chose. Et je suis resté là.
Est-ce que votre peinture a changé en passant de...
Ah, elle change tout le temps. Qu'est-ce que la peinture, c'est fait pour changer. Si on reste trop stable, lui, il est un peu en danger. Parce qu'il est jeune et il se fixe sur un truc. Tandis que moi, je bouge.
Alors, c'est abstrait ou c'est figuratif?
C'est évocatif.
Celui
qui veut voir quelque chose dans ma peinture, il peut voir. Celui qui regarde ma peinture et ne comprend pas, tant pis pour lui.
Mais je ne vois pas très bien, par exemple, le parcours Berlin midi.
À midi, j'ai construit un baraque, un atelier pour peindre, parce que j'ai besoin de changement d'air ici. Je trouve ça très joli ici, mais pour toujours, non.
Qu'est-ce que vous faites à Berlin?
Je peins et j'enseigne.
Et à part ça?
Mais je suis là ce soir, c'est un copain qui expose ici, je l'ai connu, comment on connaît les gens ici? Par des bistrots. Rauschenberg, il est là à Berlin maintenant?
Ben, moi j'ai vu des toiles, j'ai vu un travail.
Ah oui, bien sûr, mais Rauschenberg, le travail de Rauschenberg, c'est facile là-bas. Venez qu'il y a un musée d'art moderne, à Paris non, mais à New York il y en a.
Alors pourquoi vous n'aimez pas Rauschenberg?
Je n'ai pas dit qu'ils n'aiment pas Rosenberg. C'est drôle voilà. Avec vos conclusions.
Il vous dérange.
Je trouve que c'est un type bien. Mais tout artiste dérange un autre artiste. Vous n'avez pas encore su ça?
Oui.
Voilà.
Et encore, il vous dérange? Il vous fait de l'ombre?
Parce que c'est... Non, je ne rentre pas dans votre jeu. Je trouve qu'il est formidable, ce mec. D'ailleurs, j'ai déjeuné avec lui en 60. Avec Castelli... Brasserie Lip. Alors, je connais M. Rauschenberg. 60. Une photo, c'est combiné de temple, parce que lui, il ne prend que des photos. Il est là depuis 2 heures, il ne prend que des photos.
Alors, comment était-il, Rauschenberg, en 1960?
Sympathique, gentil. Il y avait ce pianiste, comment il s'appelle, Kay. Il y avait un truc avec Tinelli, là, au centre américain, rue de Faubourg. Il y avait un performance sur... il y avait un pianiste aussi avec lui. Rauschenberg et Castelli.
Vous parliez de quoi, chez Lip?
Chez Lip, on a mangé, là. On a déjeuné et préparé son exposition. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est un homme très vivace, extraordinaire, bien. C'est un gars qui était dans la situation américaine. Et à Paris, on trouvait ça extraordinaire, il y a 20 ans, non? On les a tous invités, ils sont tous venus. Sam Francis, Kimber Smith, qui encore? Tout le monde, tous les Américains, venez chez nous, parce que... Et puis eux, ils amenaient leur clientèle aussi, Américains, parce que la France a besoin de ce moment pour se poser. C'est une fête. Ça, j'aimerais bien vous le dire, que Paris a souffert... Pour les artistes, tout ce qui concerne l'art français ou les Européens, parce que moi je suis hollandais, je suis venu comme Européen à Paris, qu'il y avait toujours cette domination américaine à cause d'un pays qui, soit les gens donnent la liberté et donnent plus de possibilités financières aux gens, tandis que la France, elle souffre d'une administration totale, elle n'a pas les moyens d'offrir aux artistes français ce que l'Amérique peut offrir aux artistes américains. En Allemagne, on se donne pas mal de peine maintenant, on donne des possibilités, on a un programme de Deutsche Akademische Austauschdienst et ils donnent des bourses parce que l'Allemagne a quelque chose à rattraper, ces Français. Tandis que la France n'a rien à rattraper, elle a tout apporté. Quand la guerre commençait, ils ont des mecs comme Léger, Chagall, Esteve, tout le monde allait aux États-Unis parce qu'il ne voulait pas vivre cette deuxième guerre mondiale. L'Allemagne maintenant est dans une posture, elle a la monnaie la plus forte, elle a une... elle veut rattraper quelque chose que Hitler a détruit. Et il y a une nouvelle jeunesse qui pousse, qui ne veut plus rien avoir avec ça. Je peux le dire parce que j'ai plein de jeunes élèves ici, dans l'académie, je vois comment ils sont. Et, mais l'erreur, c'est qu'ils commencent tous à penser Amérique, Amérique, Amérique. Et moi, je leur dis tout le temps, mais attention un peu, l'Amérique est très dangereuse, parce qu'elle peut nous amener à la Troisième Guerre mondiale, eux. Ce sont des gens dangereux, les Américains, pour leur but, pas pour la nôtre.
Est-ce qu'il y a un marché américain à Berlin ?
Écoutez ce que vous voulez. Hein. Remarquez, je suis derrière ce que j'ai dit.
Est-ce qu'il y a un marché américain à Berlin ?
Peut-être, mais tout petit. Il y a quelques galeries. Il y en avait un ici, il s'appelle la Galerie Micro. Et lui, il s'est arrêté, ça ne marchait plus. Ça marchait un peu avec quelques Anglais et avec Jasper Jones et quelques types. Mais ça n'a pas été très fort. Je crois qu'il y a une affaire ici qui est en dessous, un étage en dessous, qui s'appelle Petzleusden, qui fait du marché international, qui va quelquefois aux auctions, mais grande internationale, non. Il y a une hantise de vouloir pousser une peinture qui est en liaison avec Berlin-Ouest et la Berlin-Est, c'est le réalisme allemand. Vous entendez parler ? Oui ? Alors ce réalisme allemand, c'est une chose... Je crois qu'au-dessous de la frontière de l'Allemagne, elle ne prendra pas beaucoup.
Alors, qui peint ?
Qui touche un peu dans le domaine de grosse comme dessinateur. Et ça, c'est peint. Et c'est un spécial mouvement pour lequel je me méfie beaucoup. C'est l'horreur.
Bah, c'est le réalisme.
Le réalisme.
Les années 30 avec Otto Dix.
Ah oui, mais maintenant, oui, Otto Dix est grosse. Mais maintenant, il y a certaines jeunes qui veulent reprendre ça. Et il y a une lutte, parce que moi, je présente le côté expressionniste, libre, hein, tel que je l'ai connu en Hollande, tel que je l'ai vu en France. Et moi, je présente ça ici. Et je ne peux pas faire autrement. Mais il y a une hantise, hein, ça, pour s'identifier. Le Berlinois se cherche à s'identifier. Toujours. C'est vrai ou non ? C'est cher, ça se dit. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que... Là, il y a une exposition d'un groupe berlinois qui a été à Londres, à la Whitechapel Gallery, il y a 3 ans. Il y a eu des critiques. Il y a le Berlin réalisme. Eux, ils ont appelé ça aglo-réalisme. Les Anglais ont appelé ça comme ça. Reste à vous de sentir ce que je veux dire.
C'est très difficile de vivre à Berlin ?
Non. Surtout quand on y sort souvent. Je viens de rentrer. Hein. J'ai passé 2 mois dans le Vaucluse. Je suis rentré maintenant parce que le cours a commencé. Et le cours termine mi-juillet et je repars. 2 mois de suite, ça va. Après, il faut partir.
Et vous exposez à Berlin ou bien en France ?
En France. Et semaine prochaine, je vais en Suède. Suède, Hollande, Danemark. La France, pas Berlin.
J'aimerais bien que vous me parliez de Berlin.
J'ai connu Berlin à partir de 69. On m'a offert une bourse, ça s'appelle la bourse de Ford Foundation.
C'était comment déjà Berlin à cette époque ? Par rapport à 80 ?
Alors, donc il y a 10 ans à peu près. Bon, ça n'a pas tellement changé. C'est à peu près pareil. Il y a un peu plus de galeries, si je parle de ma domaine. Mais les affaires, c'était pareil à ce moment-là. La bourse était une attraction pour tirer les gens d'étrangers ici, puis il y a une commission, etc.
C'était une bourse importante ?
Ah oui, pour moi, c'était pas sans importance, parce qu'au bout de un an et demi de bourse, on m'a demandé de rester ici, si je voulais, pendant 3 mois comme guest professeur à l'académie. Vu ma situation financière lamentable à Paris, je dis, tiens, peut-être ce serait un truc de sortir d'affaires. Et ça m'a vraiment sorti d'affaire. Et après, je suis venu attitré. Je suis un professeur attitré. Si les Berlinois, ils vivent... Les vrais Berlinois, ils pensent à rien. Ils trouvent c'est bien. Ceux qui ont du mal sont les étrangers. Plutôt pas moi, mais les Turcs, les Portugais, qui vivent dans des maisons très simples. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis professeur à Tokyo, j'ai un bon salaire, c'est valable. Pour moi, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de quitter cette ville régulièrement.
Ich laufe den Bahnsteig lang und weiß nicht, ob ich hier wegfahre oder was. Ey, guck mal, da kommt ein Schnellzug und fährt weiter. Ein Bulle von der Bahn taucht auf. Ich halte den Brief in meiner Hand fest. Da steht, du fühlst dich tot wie Stein. Und dass du dir jetzt einen Wald suchst, um dir im Moos ein Bett zu bauen. Dein Riesensaxophon ist natürlich auch da. Und Flöten soll auf der Wiese wachsen. Die alte Frau bepfannt mit Kleingeld. Wir warten auf den nächsten Zug. Ich sprach die alte, wo der Wald
pour ce commérage.
Oh, t'inquiète pas, tout ça.
Mais ça, c'est sûr. Là, ça, je le sais. Mais enfin, quand même, pour vos piles précieuses, puisqu'il n'en reste plus beaucoup.
Non, mais quand ça tourne et que ça enregistre, il n'y a pas de problème.
En plus, ils n'ont pas encore quitté la maison, Brigitte.
Mais si tu. Quoi ? Pardon ?
En plus, ils n'ont pas encore quitté la maison.
Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous faites si vous tombez en panne de pile demain?
Mais la pile, c'est moi.
On devient très modeste en France. Il y avait un temps où, où on a dit l'État, c'est moi. Maintenant, on dit la pile, c'est moi.
Ça va passer là, Yann.
Yann, je considère cela comme une action.
Ah, mais c'est bien ça, Yann. Je suis fier de toi.
Bon, si vous voulez vous moquer de moi, ça je peux faire facilement moi-même.
Tu crées les mots valises, toi.
Il n'était pas mauvais, hein, ce vin. Je suis très heureuse que vous appréciez le vin allemand.
C'était un vin de Rhénanie.
Non, de Franconigen, c'est très important. Il n'est que cette forme-là. Hein, cette forme-là qu'on appelle Boxbeutel, se trouve uniquement en Franconie.
Tu fais souvent de la voile sur le lac de...
Jamais. Jamais. Mais je m'assois assez souvent en été au bord de l'eau, là. La Harfe, moi j'aime beaucoup. C'est très joli. Non, mais je disais que dans le Tagesspiegel, c'est le meilleur quotidien de Berlin, il y a eu une série d'articles intitulés « La planète bleue ». Parce qu'en allemand, pour dire « être ivre », on dit « je suis bleu ou tu es bleu ». Alors, tu vous comprenez le rapprochement. Parce que en RDR aussi, c'est un problème terrible. Hein, terrible.
Mais pourquoi vous buvez tant à Berlin?
Enfin, comment dirais-je? En France, la boisson est intégrée, enfin, vous buvez tout le temps, vous.
Non, mais si, je trouve qu'il y a une accélération.
Oui, chez nous, on boit...
Ça s'accélère à un moment donné.
Oui, non, mais ici, on boit pour se saouler, quoi, parce que peut-être que l'état d'ivresse est un état souhaitable. Moi, personnellement, j'aime bien être ivre, quoi.
À quoi tu penses quand tu es ivre?
Ah, je ne sais pas. Alors là, je pense énormément de choses, mais je n'arrive plus à les formuler, parce que... Cet instrument linguistique ne m'obéit plus, tu vois. Mais j'ai des... Ça fait comme ça dans ma tête, tu vois. Bon, à un moment donné, évidemment, c'est aussi plof, hein. Alors là, c'est fini. Ça, c'est la fin, quoi. Alors, au point... Bon, je ne sais plus, quoi, alors, mais...
Mais tu es toujours très digne, hein.
Mais tu ne m'as pas encore vu ivre.
Non.
j'essaie de tenir quand même, de me tenir comme il faut, quoi. Ça, j'emploie beaucoup d'efforts pour, bien sûr.
Ah, Christine.
Christine, pourquoi ne buvez-vous pas?
Mais je bois, c'est moi, je bois le verre des autres. Non, je bois de Jens. Là.
Jens, le dernier mot de la fin, le mot de la fin, c'est la fin de la bande. Un mot. Quel mot tu dis? Dépêche-toi.
Nuit magnétique. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, quatrième partie. Avec la participation de Dieter Rückeberl, Jens Jensen, Christine Gerber, Brigitta Restorff, Joseph Beuys, Werner Amacher, Martin Edelman et Alain Benoît, Bernard Schwarzbaum, Maï-Christine Goucher, Pamela Dousseau, Jean Dev, bonsoir.
Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin. Quatrième des cinq émissions, diffusée le 8 mai 1980 sur France Culture. À suivre.